أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Aujourd'hui, j'évoquerai un signe apparu en faveur du Messie promis l'Islam à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 avril 1900. Ce signe est le sermon prononcé par le Messie promis l'Islam en langue arabe suite au soutien de Dieu. C'était en somme une révélation. C'était un signe révélé. Et c'est pour cette raison que ce sermon porte le titre de la Khutba Ilhamia, le sermon révélé. Environ 200 personnes ont entendu ce sermon révélé et ont été les témoins visuels de cette condition. Quelqu'un m'a demandé d'évoquer ce grand signe aujourd'hui en raison de la date. Et puisque nous sommes aujourd'hui un vendredi, on m'a demandé d'évoquer ce grand signe apparu en faveur du Messie promis l'Islam. Je dois en faire mention aujourd'hui, car il y a certes de ces Ahmadis qui connaissent l'existence de l'ouvrage Khutba Ilhamia, mais peut-être que ces personnes ignorent son historique et son arrière-plan. Et j'étais encore plus surpris de savoir qu'il y a des Ahmadis qui ignorent c'est quoi la Khutba Ilhamia, c'est quoi ce sermon révélé. Tout Ahmadi doit comprendre que ce signe de soutien accordé par Dieu au Messie promis l'Islam, ce signe a pour vocation de renforcer notre foi, et ce signe nous offre aussi de quoi clouer le bec aux adversaires de la communauté Ahmadiyya. Ce signe nous offre des preuves afin de prouver la véridicité du Messie promis à l'Islam. Un signe à l'instar de la Khutba Ilhamia fait partie de ces signes qui sont parmi les signes les plus grandioses. C'est un signe qui a réduit au silence de grands oulémas. Comme je l'ai dit, j'évoquerai brièvement l'histoire ainsi que l'arrière-plan de ce sermon révélé. Et je vais mentionner aussi l'effet que ce sermon a eu sur les Ahmadis de l'époque. Par quel état sont-ils passés? Et que disent les non-Ahmadis à ce propos? Et je vais aussi présenter quelques lignes ou quelques extraits de ce sermon révélé. C'est en lisant ce sermon révélé que l'on pourra saisir sa réalité ainsi que sa grandeur. « Cependant, même ces quelques phrases que j'ai choisi de citer suffiront pour faire connaître cette grandeur ainsi que le statut éminent du Messie promis à l'Islam. L'on n'a peut-être pas inclus la khutba ilhamia dans la tadhkira, qui est le recueil des révélations reçues par le Messie promis à l'Islam, parce que l'on pensait peut-être que cela n'était pas nécessaire, puisque la khutba ilhamia a été publiée sous la forme d'un livre. J'ai certaines réserves à ce propos. À l'avenir, quand on va publier la prochaine édition de Tadhkira, ou quand il sera publié dans une autre langue, le département concerné doit me contacter. L'arrière-plan de ce sermon révélé a été évoqué dans les journaux Al-Badr et Al-Hakam et dans les annales de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Il est dit que le jour d'Arafat, c'est-à-dire la veille de l'Eid al-Adha, le matin, en écrit, le Messie promis l'Islam a transmis le message suivant à Hadrat Maulana Nuruddin. Il lui a informé et a déclaré que je désire consacrer une partie de la journée d'aujourd'hui et de la nuit à prier pour moi-même et mes amis. Envoyez-moi les noms de ceux qui sont présents ainsi que leur adresse en écrit, afin que je puisse me souvenir de ces personnes lors de mes prières. Ainsi, l'on envoya une liste de ces Ahmadis qui étaient présents à Qadian au Messie promis l'Islam, suivant son injonction. D'autres visiteurs ne cessaient d'arriver. Ils exprimaient tous l'ardent désir de rencontrer le Messie promis l'Islam et de lui solliciter des prières. Et pour ce faire, ils envoyaient des messages au Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam demandant de ne plus envoyer de messages, car, disait-il, cela l'incommodait trop. Le Messie promis l'Islam vint pour les prières de Maghrib et des chats qui ont été combinées, et par la suite, il a déclaré qu'étant donné que j'ai fait la promesse à Dieu que je passerai la journée d'aujourd'hui et la nuit en prière, c'est pour cette raison que je vous quitte afin que je ne brise pas ma promesse. Ainsi, le Messie promis l'Islam est parti et s'est consacré à la prière. Le lendemain, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, le Molvi Abdul Karim partit rencontrer le Messie promis l'Islam pour lui solliciter expressément de prononcer un sermon. Sur ce, le Messie promis l'Islam a répondu « C'est Dieu qui m'en a donné l'ordre. La nuit, j'ai reçu la révélation que je dois prononcer quelques paroles en arabe devant une assemblée. Je pensais que cela concernait une autre assemblée, mais il se peut qu'il s'agisse de l'assemblée réunie pour l'Aïd. » Et selon les rapports, il est dit que, avant que le Messie promis l'Islam ne prononce son sermon en arabe, il demanda à Molvi Nuruddin ainsi qu'à Molvi Abdul Karim de se rapprocher de lui et de transcrire le sermon. Quand ils étaient tous de près, le Messie promis l'Islam débuta son sermon en langue arabe avec les paroles « Ya Ibadallah ». Au cours du sermon, le Messie promis l'Islam a aussi dit « Ne cessez de transcrire et d'écrire et si vous n'avez pas compris un mot, demandez-moi maintenant. » Et quand le Messie promis l'Islam termina son sermon et s'asseya, à la demande de la plupart des membres de l'assistance, Molvi Abdul Karim se mit à traduire le sermon en langue ourdou. Mais avant qu'il ne commence à présenter sa traduction, le Messie promis l'Islam a déclaré que ce sermon est un signe de l'exaucement des prières que j'ai faites le jour d'Arafat et la veille de l'Aïd. Ce signe de l'exaucement de la prière était que si je prononçais ce sermon en langue arabe, sans préparation à l'improviste, ce serait un signe que toutes mes prières ont été exaucées. Alhamdulillah, toutes ces prières ont été exaucées selon les promesses de Dieu. Et le Molvi Abdul Karim avait à peine commencé à traduire le sermon en langue ourdou que le Messie promis l'Islam, sous le poids des émotions, se prosterna en remerciement à Dieu. Et les membres de l'assistance le suivirent en prosternation. Quand le Messie promis l'Islam se leva de sa prosternation, Il déclara, j'ai vu écrit en lettres rouges, félicitations. C'est un signe de l'exaucement de mes prières. Ce rapport a été publié dans Al-Hakam et dans le recueil Malfouzat. Dans son ouvrage Nuzul al-Masih, le Messie promet l'Islam déclare le matin du jour de la Eid al-Adha, dans une révélation, Dieu me demanda de prononcer quelques paroles en arabe, et j'en avais informé nombre de mes amis. Jamais auparavant, je n'avais prononcé de sermon, de discours en langue arabe. Mais le jour de la Eid, quand je m'apprêtais à prononcer ce sermon en langue arabe, Dieu fit sortir de mes lèvres des paroles d'une grande éloquence et empreintes de sens des paroles qui sont consignées dans l'ouvrage Khutba Ilhamiya. Ce sermon comportait plusieurs parties que j'ai prononcées d'un seul trait, sans aucune préparation préalable. Et dans les révélations que Dieu m'accorda, il qualifia ce sermon de signe, car ce discours n'était que la manifestation de la puissance divine. J'ai la ferme certitude qu'aucun grand orateur, aucun grand érudit ou lettré arabe puisse prononcer pareil discours à l'improviste. Et environ 150 personnes étaient présentes et sont les témoins de ce discours. Et dans son ouvrage « Hakikatul Wahi », le Messie promet l'Islam explique en détail que le 11 avril l'an 1900, le matin de la Eid al-Adha, j'ai reçu la révélation suivante. « Prononce un sermon en arabe aujourd'hui. La force pour le faire t'a été accordée. » Ensuite, j'ai reçu la révélation suivante. « Kalamun ufsirat min ladun rabbun karim. » C'est-à-dire une parole éloquente de la part du Seigneur gracieux. Et j'ai informé le défunt Molvi Karim Saheb et Molvi Nuruddin Saheb, Cheikh Rahmatullah Saheb, Mufti Mohamed Sadiq Saheb, Molvi Mohamed Ali Saheb et Master Abdurrahman, ainsi que Master Sher Ali, ainsi que Hafiz Abdulali Saheb et nombre d'amis. Je leur ai informé à ce propos. Et après la prière de l'Aïd, je me leva pour prononcer ce sermon en langue arabe. Et Allah sait qu'une puissance m'a soutenu de l'invisible, et j'ai prononcé à l'improviste un sermon d'une grande éloquence en langue arabe, quelque chose qui dépassait mes aptitudes. Je ne pense pas qu'il soit possible, sans le soutien de la révélation divine, à n'importe qui de prononcer pareil discours qui comprenait plusieurs parties et d'une si grande éloquence. Personne ne peut prononcer pareil sermon sans avoir au préalable mis cela en écrit. Environ 200 personnes ont écouté ce discours en arabe qui a été publié sous le titre Khutba Ilhamiya. Par la grâce de Dieu, une source invisible était ouverte à cet instant. J'ignorais moi-même si c'était moi qui prenais la parole ou si c'était un ange qui parlait par l'entremise de ma langue, car je savais que je n'avais aucune maîtrise sur ce discours. Des phrases toutes faites sortaient de mes lèvres et chacune d'entre elles était pour moi un signe. Et ce discours a été publié sous le titre « Khutba Ilhamiya, le sermon révélé ». En lisant cet ouvrage, l'on ne pourra qu'en déduire qu'aucun être humain ne pourrait prononcer un si long discours à l'improviste en langue arabe. C'était là un miracle d'ordre intellectuel montré par Dieu, et personne d'autre ne pourra en présenter de pareil. Ce défi est encore à relever aujourd'hui. Il y a d'autres faits qui ont été évoqués dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya à propos de ce sermon. Ce sermon était un grand signe en soi, et en raison de sa grande importance, le Messie promet l'Islam a encouragé ses disciples à le mémoriser. Et ainsi, Soufi Ghulam Mohamed, Hadrat Mir Mohamed Ismail Saheb, Mufti Mohamed Sadiq Saheb, Molvi Mohamed Ali Saheb et d'autres compagnons l'ont mémorisé. Et deux d'entre eux l'ont présenté au Messie Premier l'Islam de mémoire entre la prière de Maghrib et d'Isha sur le toit de la mosquée Moubarak. Hadrat Molvi Abdul Karim Saheb, qui était un fin lettré était fou amoureux de ce discours et le répétait souvent. Et quand il citait certains passages, il était comme en extase. Il est une évidence que Maulvi Abdul Karim, qui était un fin lettré, il était évident qu'il soit en extase face aux paroles miraculeuses de ce sermon révélé. Mais plus étonnant encore est le fait que même des enfants qui avaient écouté ce sermon ont été profondément touchés par ses paroles, par son attraction. Et selon le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, le jour du sermon, avant le coucher du soleil, des enfants de pas plus de 12 ans répétaient les paroles de ce sermon dans les ruelles de Qadian, et c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce sermon a été publié en août 1901 et le Messie Premier Islam l'a fait composer par un scribe avec de grands soins. Le Messie Premier Islam lui-même en a fait la traduction en langue persane et en langue ourdou et a placé les signes diacritiques de ses mains. Le sermon révélé qui se trouve dans l'ouvrage Khutba Ilhamia s'arrête à la page 38 et occupe le premier chapitre de cet ouvrage. Et les pages suivantes et le reste de l'ouvrage ont été écrit par le Messie Premier Islam. C'est la première partie qui concerne ce sermon révélé, mais l'ouvrage tout entier porte le titre de Khutba Ilhamia. Après sa publication, de grands arabisans furent fort surpris par l'excellence hors pair de sa langue et par les vérités qu'il comprenait. La vérité est que ce sermon est un signe de connaissance en faveur du Messie du Saint-Prophète, un signe qui n'a pas son pareil après la révélation du Saint-Coran. L'on trouve mention dans Tadhkira deux rêves à propos de ce rêve, deux rêves consignés par les mains du Messie Premier Islam. À la date du 19 avril 1900 est consigné le rêve de Mir Abdullah Sanouri. Ce dernier rapporte que dans son rêve, un certain Munshi Ghulam Qadir de Sanour est venu le rencontrer et lui a demandé à propos de l'effet de ce sermon. Mir Sanouri a répondu que ce sermon a fait grand bruit dans l'au-delà. Ce rêve ressemblait à celui de Sayyid Amir Ali Shah Sahib. Il a vu que le jour de la Eid, quand le Messie Premier Islam prononçait ce sermon en langue arabe, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes Isa alayhi sallam et Moussa alayhi sallam et le prophète Ézéchiel étaient présents dans l'assemblée et écoutaient ce sermon. Sayyid Amir Ali Shah a vu ce rêve dans la forme d'une vision alors qu'il était assis en train d'écouter ce sermon. Hafiz Abdul Ali Saheb rapporte qu'il était présent lorsque le Messie Premier Islam prononçait ce sermon. La voix du Messie Premier Islam était différente. Il y avait un certain Sayyid Mulhim, quelqu'un qui se disait descendant du Saint-Prophète et qui se disait récipiendaire d'une vision, qui était Ahmadi, était assis à côté de moi. Il disait que les anges étaient présents pour écouter ce sermon. Hadrat Misa Fazal Beg rapporte que le Messie Premier Islam prononça ce sermon devant lui. Le Messie Premier Islam était debout sur le seuil de la mosquée. Il était devant la porte de l'ancienne mosquée. Il a prononcé ce sermon en langue arabe. Le Messie Premier Islam se trouvait sur le seuil de la mosquée, dans le véranda. Et le Messie Premier Islam répétait chaque parole à trois reprises. Et Maulvi Hadi Khalifatul Masih Awwal, le premier calife, et Maulvi Abdul Karim transcrivaient tous deux ce sermon. Et il demandait au Messie Premier Islam l'orthographe de certains mots. Il lui demandait si certains mots étaient écrits avec Aïn ou avec Alif. Et tous deux demandaient au Messie Premier Islam des éclaircissements et celui-ci les corrigeait. Et à la fin, le Messie Premier Islam a demandé à Maulvi Abdul Karim de traduire le sermon pour le public. Et le Messie Premier Islam est tombé en prosternation pendant que Maulvi Abdul Karim traduisait le sermon. Hadrat Maulana Sher Ali Sahib raconte que le Messie Premier Islam a prononcé ce sermon révélé le jour de la Eid. Le matin du Yawm al-Hajj, le Messie premier salam a envoyé un message à Maulvi Nuruddin en lui disant d'envoyer le nom de tous ceux qui étaient présents. Et Maulvi Saheb a réuni tous ceux présents à la Talimul Islam School. La Talimul Islam, qui était le prédécesseur de la Madrasa Ahmadiyya, il a préparé la liste de ceux qui étaient présents et envoya cela au Messie premier salam. Le Messie premier salam a fermé la porte de sa maison. Et certaines personnes qui étaient venues en retard envoyaient des messages au Messie premier salam. Et quand le Messie premier salam est venu, il a déclaré que la nuit j'ai reçu une révélation qui me demandait de prononcer quelques paroles en langue arabe. Et c'est pour cette raison que le Maulvi Abdul Karim et Maulvi Nuruddin devaient se présenter avec du papier, de l'encre et du papier, car j'ai reçu l'ordre de prononcer un sermon en langue arabe. La prière a été dirigée par le Maulvi Abdul Karim et le Messie premier salam a prononcé un sermon en langue ourdou alors qu'il était assis. Et ensuite, il a commencé à prononcer un sermon en langue arabe, assis sur sa chaise. Le Messie premier salam était dans un état particulier, les yeux fermés au début de chaque phrase, sa voix était forte, ensuite salée en s'affaiblissant. Devant lui se trouvaient les deux Maulvis qui transcrivaient ce sermon. L'un d'entre eux n'avait pas bien saisi un mot et le Messie premier salam l'a répété. Ensuite, il a déclaré de lui demander de répéter de nouveau les termes qu'ils n'ont pas compris, car il se peut qu'il ne s'en souvienne pas lui aussi. Il a dit que tant que les paroles venaient d'en haut, je parlais, et quand je m'arrêta, cela cessa. Et sous les soins personnels, le Messie premier salam fit réécrire ce sermon, et il a traduit ce sermon en persan et en langue ourdou. Il a encouragé les membres de sa communauté à mémoriser ce sermon, tout comme l'on mémorise le Saint-Coran. Ainsi, Mufti Mohamed Sadiq et Maulvi Mohamed Ali l'avaient mémorisé et l'avaient répété au Messie premier salam. Mon frère Hafiz Abdul Hayy avait demandé des éclaircissements à ce propos au premier calife. Celui-ci a dit que nous savions très bien que le Messie premier salam n'aurait pas pu prononcer ce sermon de son propre chef. Il voulait dire que c'était la parole de Dieu et ce n'était pas la parole du Messie premier salam. Mian Amiruddin rapporte qu'après le sermon prononcé par le Messie premier salam en cours de route, il a déclaré qu'il ne savait même pas, après avoir prononcé une phrase, quelle sera la prochaine phrase qu'il allait prononcer. Je les voyais comme écrits devant moi, disait-il, et je les lisais. Et il énonçait ses paroles lentement et posément. Hadrat Maulvi Abdullah Batalvi rapporte qu'il y avait un certain Sayyid Abdul Hayy qui était un arabe et qui avait séjourné à Qadian longtemps pour connaître la vérité sur le Messie premier alayhi salam. Par la suite, il a prêté allégeance au maître du Messie premier alayhi salam. Et il a raconté l'histoire de sa conversion. Sayyid Abdul Hayy l'arabe a rapporté ceci. Il a dit, après avoir lu les écrits éloquents et fabuleux du Messie premier salam, je n'avais pas de doute que sans le soutien de Dieu, l'on ne pourrait écrire pareille chose. Mais je n'étais pas encore certain que c'était là les paroles du Messie premier salam. Certes, Maulvi Nuruddin et les autres oulémas essayaient de me convaincre et témoigner que c'était là les écrits des mains du Messie premier salam. Mais leurs propos n'ont pas dissipé mes doutes. Et par différents moyens, j'ai essayé d'avoir le cœur net et de savoir si c'était réellement les paroles du Messie premier salam, ses écrits, ou s'il a été aidé par quelqu'un d'autre. Ainsi, j'ai écrit des lettres au Messie premier salam en langue arabe, et celui-ci me répondait en langue arabe. Je comparais ses réponses avec les ouvrages en langue arabe qu'il avait écrits, et j'en ai conclu que le style est le même. Mais il y avait quand même quelques différences. Et on m'a répondu que les écrits et les réponses du Messie premier salam qu'il composait au quotidien n'avaient pas ce cachet miraculeux et ne jouissaient pas du même soutien de Dieu. Car les ouvrages en arabe, il les a écrits après le souhait et l'ordre de Dieu et avec son soutien spécial. C'est pour cette raison que ces écrits particuliers avaient une certaine distinction. Et distinction, il devait y en avoir, sinon il n'y aura pas de différence entre les aptitudes ordinaires et le soutien particulier de Dieu. En tout cas, je suis resté à Kadian pour entreprendre cette recherche afin que je puisse moi aussi être le témoin oculaire de ce genre de faits divins. Afin que je puisse moi aussi être le témoin de ceci, du soutien de Dieu. Et le jour de la révélation de la Khutba Ilhamiyya, j'ai vu de mes yeux la descente de cette parole révélée, cette parole miraculeuse. J'ai entendu cela de mes oreilles. Ces paroles que prononçait cet homme sans l'aide de personne, au grand jour, en public, c'étaient des paroles d'une grande éloquence. J'avais le cœur net après avoir entendu ce sermon et j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier, alayhi salam. Un certain Hadji Abdul Karim, qui était de l'armée, était posté en Égypte. Cela date d'avant 1940. Là-bas, il a prêché le message de l'Ahmadiyya et il y a un certain Ali Hassan qui a embrassé l'Ahmadiyya. Il partait rencontrer différents Égyptiens pour leur prêcher le message de l'Ahmadiyya. L'un d'entre eux travaillait dans le bureau du télégramme. Il y a eu des discussions avec lui pendant plusieurs jours et il était d'accord sur tous les points sauf sur celui que le Messie promet l'Islam était un Ummati Nabi, c'est-à-dire un prophète issu de la Oumma du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Il ne pouvait accepter ce dernier point. Et c'est là que cet Ahmadi a offert à cette personne l'ouvrage Al-Khutba Al-Ilhamiyya. Et il ne l'a pas revu pendant plusieurs jours. Un jour, cet ami lui a invité pour un dîner. Il a invité Hadji Abdul Karim, l'Ahmadi. Dès que ce dernier le rencontra, il lui a demandé d'envoyer sa lettre d'adhésion, sa bayra. Hadji Abdul Karim lui a demandé s'il avait compris cette question de la Khatm Nabuwa. Et l'ami en question a répliqué que la veille, j'avais invité un savant d'Al-Azhar en lui disant que certains Indiens sont venus ici et sont en train de me prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ils me disent que Jésus-Christ est mort et que le Jésus qui viendra sera un membre de la communauté du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et selon eux, c'est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, qui est ce Messie et ce Mahdi. Cet Égyptien dit que je suis d'accord avec leur argument, sauf celui dans lequel ils disent que Mirza Ghulam Ahmad est un Ummati Nabi, un prophète. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Vous qui êtes savant, dites-moi si j'ai raison à ce propos. Et le savant d'Al-Azhar a répliqué que j'ai lu les ouvrages de Mirza Ghulam Ahmad et j'ai discuté avec certains Ahmadis et j'en ai parlé avec eux. Même si des milliers de personnes se disaient les prophètes de la catégorie de Mirza Ghulam Ahmad, cela ne briserait en aucun cas le sceau du prophétat, du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre lui a dit que je vais embrasser l'Ahmadiyya et au jour de la résurrection, vous serez responsable de cela. Le savant d'Al-Azhar a répliqué que cette réponse, je la donne ici et nulle part ailleurs. Si tu me poses cette question en public, je répondrai qu'il ne peut y avoir de prophète Ummati. Je ne vais pas dire cela au grand public. Si tu désires entrer dans la Jamaat Ahmadiyya, tu peux le faire avec mes bénédictions. Quant à moi, je suis face à certains grands obstacles, et dont le plus grand est que je perdrai mon travail si je deviens Ahmadi. Ainsi, c'est le monde qui a eu le dessus pour lui. Cet ami égyptien a déclaré que quand j'ai entendu ces propos de ce savant d'Al-Azhar, j'ai pris la ferme décision d'embrasser l'Ahmadiyya. Et j'ai lu l'ouvrage Khutba Ilhamiyya avant de m'endormir. Et dans un rêve, la nuit, j'ai vu le Messie promet l'Islam suivi d'une multitude de gens. Et je lui ai demandé, qui sont ces gens qui sont en train de vous suivre et où les menez-vous? Le Messie promis, alayhi salam, a répondu, ce sont les amis d'Allah, des awliyaullah, des gens de la Oumma du Saint-Prophète qui m'ont précédé, et je les emmène voir le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa cour. Et moi, je suis le Khatmul Awliya, et après moi, il n'y aura pas d'autre wali, hormis celui qui sera de ma jamaat. Et après le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, il n'y aura pas d'autre prophète, hormis le Ummati Nabi, un prophète comme moi. Quand je me suis réveillé, eh bien, cette question de la Khatma Nabawiyya a été résolue pour moi et j'étais très content. Haji Abdul Karim a déclaré que j'ai envoyé sa formulaire de baya et une lettre à ce sujet. Il y avait un grand érudit, un grand savant du nom de Cheikh Abdul Qadir al-Maghribi. Hadrat Sayyid Wayullah Shah Saheb connaissait cet alama al-Maghribi. Et ils étaient très proches d'eux parce que tous deux étaient des lettrés. Ils se sont rencontrés la première fois en 1916. Un jour, Alama al-Maghribi a dit à Sayyid Waliusha que nous allons nous prendre en photo et nous allons sceller notre amitié en posant la main sur le Saint-Coran. C'est en raison de cette amitié que le deuxième calife, Hadrat Muslim Aoud, lorsqu'il a visité Damas, il est parti voir cet Alama et Abdul Qadir est venu le rencontrer, lui a posé nombre de questions. Et lorsque le musulman lui a répondu, celui-ci, qui se disait un érudit et qui était entêté, disait que « Nous sommes des Arabes, nous maîtrisons cette langue, nous comprenons le Saint-Coran plus que vous. Hormis nous, qui pourra mieux comprendre le Saint-Coran ?» En tout cas, il y a eu de telles discussions et le deuxième calife a déclaré que vous aussi, comme nous, vous avez besoin des dictionnaires. Et il a dit que c'est Dieu qui nous a enseigné le Saint-Coran, c'est lui qui nous a fait comprendre le Saint-Coran. Certes, nous parlons la langue ourdou et nous n'avons pas l'occasion de parler la langue arabe, mais nous sommes doués d'une plus grande éloquence. Et ainsi, le deuxième calife a commencé à parler en arabe d'une grande éloquence. Et Sayyid Shah a dit à Abdul Qadir que c'est vrai qu'ils sont plus éloquents que nous. Et Maulvi Abdul Qadir s'est apaisé et il a commencé à parler avec un plus grand respect. Lors de la conversation, Alama Abdul Qadir a dit au deuxième calife qu'il y a des erreurs dans les ouvrages du Messie premier al-Salam. Et le deuxième calife lui a donné la réponse. Il a dit que si tu as la possibilité, eh bien montre-moi ces erreurs ou réponds à ces ouvrages. Mais sache que tu ne pourras pas le faire. Quand tu vas prendre ta plume, tu n'auras pas la possibilité de le faire. Tu ne pourras pas écrire, tu n'auras pas le pouvoir d'écrire. Fais-en une expérience. Sur ce, le Maulvi Abdul Qadir a commencé à dire au deuxième calife de ne pas prêcher son message dans les pays arabes, car cela va créer de la dissension. Et la dissension a créé des troubles parmi eux, disait-il. Les Wahhabis nous ont déjà porté un mauvais coup, disait-il. Partez en Europe, aux Amériques et en Afrique et prêchez le message de l'islam aux koufars et aux chrétiens. Mais n'évoquez pas vos croyances ici dans ces pays arabes. Il lui a dit « Je vous conjure de ne pas prêcher ce message » et il baisait les mains du deuxième calife et il le suppliait de ne pas prêcher le message du Messie premier l'Islam dans ces régions et de ne pas envoyer des missionnaires dans cette partie du monde. Il a aussi ajouté que nous savons que Mizarullah Ahmad était une personne noble, avait un grand sens de l'honneur pour l'Islam, mais nous ne pouvons accepter sa nabouwa. Réunissez les gens sous la bannière de la ilaha illallah. En tout cas, le deuxième calife a répondu à ses propos en disant que si cette tâche était la nôtre, eh bien nous l'aurons abandonnée. Mais c'est là l'ordre de Dieu. Cela ne nous concerne pas nous ni Sayyidina Ahmad. C'est là l'ordre de Dieu et nous allons certainement transmettre ce message. Et Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu avait envoyé Maulana Jalaluddin Shams en Syrie à l'époque et Hadrat Sayyid Zainul Abidin Sahib a rapporté un incident. Il a dit qu'un jour, moi et Maulana Shams Sahib, nous parlions avec certains amis à propos de l'Ahmadiyya. Et Cheikh Abdul Qadir Al-Maghribi est venu et nous a écoutés. Lors de la conversation avec dérision, il a évoqué sa rencontre avec le deuxième calife. Il en a fait mention avec un mépris. Et il a répété les conseils qu'il a donnés au deuxième calife, c'est-à-dire de ne pas prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et sur un ton de plaisanterie, il a déclaré qu'il y a des erreurs dans ses révélations en langue arabe. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans les révélations reçues en arabe par le Messie premier al-Islam. Sayyid Zainul Abidin lui a donné l'ouvrage Khutbah Ilhamiyah et lui a dit « Trouve-moi des erreurs dedans ». Il a commencé à lire cela à voix haute et a dit à propos de quelques mots que ce ne sont pas des mots arabes. Le Moulana Shamsab lui a offert le dictionnaire Tajul Urus, un dictionnaire arabe, et il lui a montré ces mots qui s'y trouvaient. Ceux de l'assistance étaient étonnés, et moi j'ai profité de cette occasion, et j'ai dit que vous vous disiez être un grand lettré, un grand érudit, mais mon étudiant qui est ici connaît l'arabe mieux que vous. Shamsab étudié l'anglais avec moi et je le considérais comme mon élève. Le Molvi Abdul Qadir al-Maghribi était en colère, il est sorti et il a lancé un défi. Shah Sahib a déclaré que ceux qui étaient assis étaient impressionnés par cela. Ils étaient impressionnés par mes paroles et je leur ai dit que nous habitons ensemble et j'étais enseignant à l'époque. Et Alama al-Maghribi n'aurait pas dû dire de telles choses après avoir lu cet ouvrage Khutbah Ilhamiyah. Et il aurait dû accepter la vérité. En tout cas, le lendemain, Shamsab m'a dit que le deuxième calife vous avait dit d'avoir de bonnes relations avec Abdul Qadir al-Maghribi et vous lui avez mis en colère. Je lui ai dit de ne pas s'en faire et le lendemain, nous sommes partis tous deux voir Alama al-Maghribi. Nous avons frappé à sa porte et dès qu'il a ouvert sa porte, il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassé. Il m'a dit « Je vous demande pardon. Je voulais vous voir. Venez, entrez. Prenez quelque chose et je vais vous montrer ce qui s'est passé la nuit. » Nous sommes partis à l'intérieur et nous avons vu à l'intérieur l'ouvrage « Al-Haqaiq Anil Ahmadiyya » qui a été écrit par Waliullah Shah Saheb. Le Molvi Abdul Qadir a déclaré que j'avais cet ouvrage dans les mains et je voulais répondre à cet ouvrage. J'ai placé devant moi les ouvrages de hadith et de commentaires. Et après la prière d'Isha, j'ai commencé à répondre à cet ouvrage. Je lisais ce qui était écrit dans cet ouvrage et je cherchais les réponses ici et là. Mais je n'étais pas satisfait de mes réponses et je jetais cela. Et c'est ainsi que s'est passée la nuit. Et ma femme, quant à elle, me demandait de venir dormir. Et Alama al-Maghribi a déclaré que c'était l'heure de la prière du matin et je n'ai rien pu écrire. À chaque fois que j'écrivais quelque chose, c'était comme s'il y avait des erreurs dedans. Toute la littérature de la Jamaat est basée sur les écrits du Messie premier al-Islam. Et il a dit à Shah Saheb que « Je vous promets à partir d'aujourd'hui que je ne vais pas prononcer une parole contre vous. Vos pensées sont en accord à l'islam et vous pouvez prêcher votre message ouvertement. Et je vais dire de bonnes choses à votre propos, mais je ne peux pas entrer de votre Jamaat. » Et jusqu'à la fin de ses jours, il a fait les éloges de la Jamaat Ahmadiyya. Je vais maintenant vous présenter quelques extraits de ce discours, la Khutbah Ilhamiyya. Et c'est ainsi que l'on va comprendre la portée de ces paroles. C'est en lisant l'ouvrage tout entier que l'on pourra comprendre cela. Le Messie premier d'Islam déclare en langue arabe. Ayyuhan nasu inni ana al-masih al-muhammadi wa inni ana Ahmad al-Mahdi wa inna rabbi ma'i ila yawmi lahdi min yawmi mahdi wa inni u'titu darman akalan وما أن زلالة وأنا كوكب يماني ووابل روحاني إذائي سنان مزرب ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالة وقوما آخرين جمالة وبيدي حربة أبيد بها أعداء ظلمي وذنوب وفي الأخرى شربة أعيد بها حياة القلوب. C'est-à-dire, je suis le Messie de la dispensation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis Ahmad de Mehdi, et sans le doute, mon Seigneur est avec moi depuis mon berceau jusqu'à ma tombe. J'ai reçu un feu consumant, j'ai reçu une eau douce, et je suis l'étoile du Yémen. Je suis une pluie spirituelle. Une affliction de ma part est une lance perçante. Et ma prière est un antidote efficace. Et je manifeste ma majesté à un peuple. Et à un autre peuple, je manifeste ma beauté. Et j'ai une arme entre les mains. Je détruis par son entremise l'habitude à commettre des cruautés et des péchés. Et dans l'autre main se trouve une boisson désaltérante grâce auquel je ranime les cœurs. Ensuite, le Messie premier Islam a déclaré « Ayuha Nasu » قوموا لله زرافات وفرادا فرادا ثم اتقوا الله وفكروا كالذي ما بخل وما عاد أليس هذا الوقت وقت رحم الله على العباد ووقت دفع الشر وتدارك أجل الأدباد أليس سيل الشر قد بلغ انتهاه وذيل الجهل تولى إرجاه وفسد الملك كله وشكر إبليس جهلاها فاشكروا لله الذي تذكركم وتذكر دينكم وما أضاعه وعصم حرثكم وزرعكم ولياءه وأنزل المطر وأكمل إبداعه وبعث مسيحه لدفع الضر ومهديه لإفادة الخير وأدخلكم في زمان إمامكم بعد زمان الخير. Ô homme, pour l'amour de Dieu, craignez Dieu et réfléchissez collectivement ou individuellement à l'instar de celui qui n'est ni borné, celui qui n'entretient aucune inimitié. N'est-il pas venu le temps que Dieu ait pitié des gens? N'est-il pas venu le temps d'éliminer la méchanceté et de rassasier les âmes assoiffées avec une pluie spirituelle? Et le déluge du péché n'a-t-il pas atteint son apogée? Le voile de l'ignorance ne s'est-il pas répandu jusqu'à ses confins? Le pays ne s'est-il pas corrompu et Satan ne prouve-t-il pas sa reconnaissance aux ignorants? Soyez reconnaissants envers Dieu qui s'est souvenu de vous et de votre foi et qui vous a préservé de la ruine. Il a protégé vos champs et vos cultures contre les catastrophes et envoyé une pluie et a parachevé sa récolte. Il a envoyé son Messie afin d'éliminer le mal et son Mahdi pour répandre le bien et les bénéfices. Et il vous a fait connaître l'ère de votre imam après que vous ayez connu l'époque sans lui. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré « Wa inni ala » مقام الختم من الولاية كما كان سيد المصطفى على مقام الختم من النبوة وإنه خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء لا ولي بعدي إلا الذي هو مني وعلى أهدي وإني أرسلت من ربي بكل قوة وبركة وعزة وإن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رأفة فاتقوا الله يا أيها الإرفان وأعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالعصيان وقد قرب الزمان وحان أن تسأل كل نفس وتدان. Je suis celui qui est venu conclure la wilaya à l'instar de notre saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a conclu la nubuwa. Il est le sceau de tous les prophètes et moi je suis le Khatm al-Awliya. Il n'y aura pas d'autre wali après moi, hormis celui qui sera de moi, celui qui respectera son allégeance avec moi. J'ai été envoyé par Dieu avec toute puissance, toute bénédiction et tout honneur. Mon pied se trouve sur un minaret qui est au-dessus de tout. Craignez Dieu, ô jeunes gens, et reconnaissez-moi, et ne soyez point désobéissants envers moi, et ne mourrez pas en étant désobéissants. L'heure est proche et le moment est proche où chaque âme sera tenue responsable de ses œuvres et sera récompensée. Voilà donc ce grand signe. Ce sont ces paroles grandioses. C'est cette annonce que le Messie Premier Islam a faite après avoir reçu l'ordre de la part de Dieu. Ce signe, comme je l'ai dit, est apparu le 11 avril l'an 1900. Et jusqu'aujourd'hui, ce signe est en train de briller. Et jusqu'aujourd'hui, aucun grand lettré, aucun grand arabisant, même des pays arabes, ne peut écrire quelque chose de comparable à cela. Comment pourront-ils se comparer à cela? Car c'était là la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est sortie des lèvres du Messie premier, les salams. Qu'Allah guide le monde et en particulier les musulmans. Qu'ils puissent reconnaître l'envoyé de Dieu, qu'on puisse comprendre son message et que cette Oumma soit de nouveau unie. Et pour qu'ils puissent être les soutiens de ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah fasse aussi que nous puissions comprendre nos responsabilités à nous. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y a tout d'abord la prière funéraire de Mokarama Hanifa Bibi Sahiba, épouse de Mokaram Chaudhry Bashir Ahmad Saheb, de Sheikhupura. Elle est décédée le 3 avril 2014 à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. En 1953, elle avait embrassé l'Ahmadiyya suite à un rêve. Et elle avait vu le deuxième calife lors de la Jalsa Salana de Rabwa. Et elle a dit que c'était lui qui m'avait dit de me convertir dans mon rêve. Elle était la seule Ahmadi parmi ses frères et ses sœurs. C'était une dame qui était respectueuse des heures des prières. C'était une dame très simple, très humble, qui était très fidèle envers la Jama, très sincère envers le califat. Elle a laissé derrière elle son époux et deux filles et cinq fils. Un de ses fils est Mokaram Afzal Bhatti. Il est missionnaire en Tanzanie. Il est en train de travailler là-bas. Et il n'a pas pu participer dans les prières funéraires de sa mère. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Et qu'il accorde patience et persévérance à son fils qui est sur le terrain et qui est en train de servir la religion. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokaram Sayyid Mahmoud Ahmad Shah Saheb de Karachi. Il est décédé le 29 mars 2014 à l'âge de 76 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était à la maison, il avait fait ses ablutions et il est parti dans sa chambre pour accomplir sa prière d'Asra. Lorsque son épouse est partie dans sa chambre, elle a vu que le défunt était sur son tapis de prière. Il avait peut-être complété sa prière, mais en tout cas, il était sur son tapis de prière. L'ambulance est venue, mais on a dit qu'il était déjà décédé. Le défunt était le fils de Sayyid Nadir Hussein Shah Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam, et le gendre d'un cousin du quatrième calife, Mokaram Abdullah Shah Saheb. Le défunt était une personne qui était très proche de la Jamaat, qui était très fidèle envers le califat, qui assumait ses responsabilités au sein de la Jamaat, une personne qui accomplissait ses prières de tahajjud. Il participait dans les plans Wakfarzi de manière régulière. Il venait souvent à la Jalsa Salana, tous les ans même, et il voulait rencontrer le calife, aimait rencontrer le calife pour une longue période. Il a été le secrétaire wasaya de son quartier. Il était moussi. Il a laissé son épouse, une fille et quatre fils. Ils sont tous à l'extérieur et qui sont en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Suède. Son frère se trouve ici au Royaume-Uni. Deux de ses frères se trouvent ici. Il y a Syed Nasir Shah Saheb qui est le responsable du département Jishanata du Royaume-Uni. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée et qu'il puisse perpétuer ses œuvres.